fais-tu assez beau? Excusez le québécisme, c'est plus fort que moi. Nous sommes vraiment servis à Victoria ces jours-ci en termes de météo estivale. Bonjour chers auditeurs, c'est Alexis Gagnon au micro en votre compagnie au cours de la prochaine heure. Le débrief édition des 5 et 6 juillet va débuter tout de suite à l'antenne de la radio communautaire francophone la plus à l'ouest. En Amérique, CILS FM 107,9. Bonne émission à tous. Merci de s'intoniser CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Vous écoutez l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107,9 FM. Nous allons lancer le bal aujourd'hui avec la revue de presse internationale. Tout de suite dans les colonnes du média français Ouest France à l'adresse westfrance.fr. G20, les politiques se préparent, manifestants et policiers aussi. Avec la tenue du G20 vendredi et samedi à Hambourg en Allemagne, plusieurs manifestations sont prévues alors que des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre depuis dimanche dernier. Retour sur les événements emblématiques d'une défiance quasi systématique lors des grands rendez-vous internationaux. 8000 manifestants anti-G20 selon la police allemande, indique cet article de Ouest France. 8000 manifestants donc sont attendus cette semaine à Hambourg à l'occasion du sommet qui aura lieu vendredi et samedi. 20 000 policiers sont déployés pour assurer la sécurité de l'événement. Tout au long de la semaine, un contre-G20 est organisé par des opposants qui prévoient la tenue de manifestations, conférences et autres ateliers alternatifs et anticapitalistes. Dimanche 2 juillet, 10 000 personnes, selon les organisateurs du mouvement, manifestaient dans la ville de Hambourg pour s'opposer à la tenue du sommet. Dans la même soirée, les premiers échanges tendus ont eu lieu avec la police lorsque les opposants ont voulu établir un campement anticapitaliste dans un parc de la ville en ajoutant des tentes à côté des points d'info, toilettes sèches et stands d'information. La police a rapidement nassé les récalcitrants avant d'arrêter plusieurs personnes. Donc vous trouverez ces détails sur les préparatifs à l'approche du G20, le sommet du G20, auquel sera présent bien sûr le premier ministre du Canada Justin Trudeau. C'est dans le média Ouest France à l'adresse westfrance.fr. On reste encore quelques secondes dans le portail de Ouest France pour cette dépêche nous venant d'Amérique du Sud. Venezuela, irruption de partisans de Maduro au Parlement, 3 blessés. Des groupes de partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro ont pénétré mercredi dans les locaux de l'Assemblée nationale où l'opposition dispose de la majorité et ont blessé plusieurs députés et journalistes, ont rapporté des témoins. Des partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro ont pénétré violemment dans l'enceinte du Parlement, unique institution du pays contrôlée par l'opposition, déclenchant une bagarre générale qui a fait au moins 3 blessés parmi les députés. Donc cette nouvelle paraît dans le fil des agences de presse, vous la trouverez notamment sur Ouest France. On va se transporter dans les colonnes du mensuel Le Monde diplomatique, dont la nouvelle édition a paru il y a quelques jours. Le numéro de juillet, donc, est maintenant disponible sur le site monde-diplomatique.fr. On va s'intéresser à un article qui revient sur la crise qui sévit actuellement dans le Golfe Persique entre des alliés traditionnels, principalement entre l'Arabie Saoudite et d'autres États alliés, et le Qatar, qui se trouve isolé par un blocus général. Drôle de guerre dans le Golfe, c'est le titre de cet article paraissant dans Le Monde diplomatique. C'est sous la plume de Fatia Dazi Eni. La traditionnelle rivalité géopolitique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran prend un tour belliqueux sur fond d'affrontements indirects en Syrie et au Yémen. Conforté par les États-Unis, où ils disposent d'un influent groupe de pression, les Saoudiens entendent dicter leur ligne de conduite à leurs voisins arabes. Et gare à ceux, comme le Qatar, qui ne rentrent pas dans le rang. Rappeler qui est le patron dans la région et affirmer son emprise hégémonique sur les monarchies voisines. Tel est le sens de l'offensive diplomatique agressive de l'Arabie saoudite contre le Qatar, peut-on lire dans cet article du Monde diplomatique. Allié pour la circonstance avec le Bahreïn et l'Égypte, ainsi qu'avec les Émirats arabes unis, le groupe mené par l'Arabie saoudite a annoncé le 5 juin dernier la rupture de ses relations diplomatiques avec Doha, la capitale du Qatar, accusée officiellement de soutien au terrorisme et de participation à diverses entreprises de déstabilisation aux côtés de l'Iran. Alors voilà un nouveau texte d'analyse sur la crise qui oppose l'Arabie saoudite au Qatar. Le Qatar qui héberge, vous le savez, la fameuse chaîne d'information en continu Al Jazeera, tant en langue arabe qu'en langue anglaise. Al Jazeera est devenue vraiment une chaîne aussi crédible que BBC dans la région du Moyen-Orient. Et elle a une influence notable sur les politiques dans cette région du monde. Alors l'Arabie saoudite ne voit pas d'un bon œil l'ascension et la présence de cette chaîne d'information en continu. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à isoler le Qatar. L'autre raison, c'est bien sûr l'amitié qu'entretient le Qatar, ou du moins les relations neutre qu'entretient le Qatar avec l'Iran, le voisin en face de l'autre côté du golfe Persique. Et bien sûr, l'Iran étant l'ennemi juré de l'Arabie saoudite, c'est un point important dans la décision d'isoler le Qatar. Et bien sûr, le monde diplomatique s'intéresse de près à cette crise du golfe Persique avec un autre article qui s'intitule « La redoutable influence de l'Arabie saoudite à Washington ». Tiède durant la dernière présidence de Barack Obama, les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis se sont réchauffées depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier 2017. Une amélioration surprenante quand on connaît la virulence des attaques de Donald Trump contre la monarchie wahhabite avant son élection. Ce n'est pas sans raison, peut-on lire dans cet article du Monde diplomatique, que l'Arabie saoudite a accueilli avec inquiétude la victoire de Donald Trump en novembre dernier. Après tout, sa vieille amie Hillary Clinton ne tarissait pas d'éloges sur l'Arabie saoudite, qu'elle présentait comme une force de paix et de stabilité, alors que son adversaire républicain, Donald Trump, durant la campagne, en disait pique-pendre depuis des années. Concernant les attentats de septembre 2001, Donald Trump avait notamment accusé l'Arabie saoudite d'être le plus gros bailleur de fonds mondial du terrorisme. La monarchie pétrolière, écrivait-il, utilise nos pétrodollars, notre argent à nous, pour financer les terroristes qui cherchent à détruire notre peuple, pendant que les Saoudiens comptent sur nous pour les protéger. Alors là, ce sont des déclarations, bien sûr, qui datent de la campagne électorale de 2016. Et bien sûr, on le sait, Donald Trump a fait un virage à 180 degrés. À son arrivée au pouvoir, il a multiplié les signes d'apaisement et d'amitié envers l'Arabie saoudite, et cette politique a mené à la conclusion de contrats d'armement très très importants de plus de 100 milliards de dollars, on s'en rappellera, il y a quelques semaines. Donc vous trouverez cet article sur les relations entre Washington et l'Arabie saoudite dans le nouveau numéro du Monde diplomatique, le numéro de juillet. Ça s'intitule « La redoutable influence de l'Arabie saoudite à Washington », et cet article expose vraiment l'influence du lobby saoudien à Washington, la capitale américaine. Et si vous voulez approfondir dans ce dossier saoudien, je vous recommande également un autre article qui paraît cette fois du côté de Mediapart, à l'adresse mediapart.fr, « Arabie saoudite, révolution au cœur de la famille royale ». Et c'est un article signé par Jean-Pierre Perrin. « C'est bien plus qu'une révolution de palais », écrit-il. « Le complexe système de pouvoir saoudien est bouleversé par la promotion soudaine de Mohamed Ben Salman, désormais prince héritier aux côtés de son père, le vieux roi Salman. En ayant écarté tous ses rivaux, celui que l'on surnomme le féroce, âgé de seulement 31 ans, concentre maintenant la quasi-totalité des pouvoirs en Arabie saoudite. » visite. Donc, portrait d'un homme très, très influent dans la monarchie saoudienne actuellement, le prince Mohammed Ben Salman. On va revenir quelques instants dans les colonnes du Monde diplomatique numéro de juillet. Un article sur la Chine et son virage vert. En Chine, la ligne rouge du virage vert. C'est le titre de cet article écrit par Guillaume Pitron. Après le retrait américain de l'accord de Paris, Pékin se présente en champion de la lutte contre le réchauffement climatique, peut-on lire. Dans le pays le plus pollué de la planète, le pouvoir central voit d'un bon œil les initiatives des défenseurs de l'environnement, à condition de ne pas être lui-même remis en cause. Alors la Chine qui réalise que la pollution à grande échelle a des effets nocifs sur la santé des populations et sur l'économie, et qui prend les mesures nécessaires pour apporter des correctifs. Je vous lis quelques lignes de cet article paraissant dans le Monde diplomatique. Si les deux couleurs qui sollicitent sans relâche l'imaginaire des Chinois, ce sont bien le vert et le bleu. À travers le pays, des affiches officielles en faveur de l'écologie figurent souvent une cité de cristal se dressant entre vallons luxuriants et cieux azuréens. Et le président Xi Jinping renchérit, confiant son espoir de voir chaque jour des montagnes vertes et un ciel bleu dans l'empire du milieu, de sorte que nos enfants, dit-il, puissent profiter d'un environnement agréable. Alors voilà, la Chine qui prend un autre chemin que celui emprunté par les États-Unis. Elle adopte les postulats de l'accord de Paris signé en 2015 et désire vraiment décarboniser son économie. C'est assez étonnant, mais ça semble être véritablement la décision de Pékin. La Chine qui détermine maintenant son virage vert. Vous trouverez cet article du Monde diplomatique qui parle d'une écologie militante en Chine dans le portail du Monde diplomatique, monde-diplomatique.fr. Dans le fil de l'agence Reuters à présent, Poutine parlera à Trump de l'Ukraine, de la Syrie, a déclaré le Kremlin. L'entretien que Vladimir Poutine aura avec son homologue américain Donald Trump à Hambourg vendredi en marge du sommet du G20 permettra au président russe d'exposer sa position sur l'Ukraine et la Syrie, a déclaré le Kremlin cette semaine. L'entretien entre les deux présidents sera limité dans le temps, cependant, ce qui ne donnera pas au président russe l'occasion d'entrer dans les détails de la genèse de la crise en Ukraine, a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence téléphonique avec la presse. La conversation devrait toutefois, espère la Russie, jeter les bases d'un dialogue permettant la résolution des conflits dans le monde et d'étudier les moyens de lutter ensemble contre le terrorisme, a déclaré le même porte-parole. La Maison-Blanche, de son côté, a déclaré cette semaine, en confirmant la tenue de cet entretien entre les deux présidents, que ceux-ci auraient une rencontre bilatérale normale, entre guillemets. Il s'agira du premier tête-à-tête entre Trump et Poutine depuis l'arrivée au pouvoir à Washington de Donald Trump en janvier dernier. On parle à présent d'un pays francophone dont il est rarement question dans notre émission, Haïti. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Haïti prévoit de recruter une nouvelle armée. Haïti prévoit de reformer une petite armée, a annoncé le ministre de la Défense haïtien, un projet dénoncé comme peu judicieux par certains au vu de l'histoire récente du pays, émaillé de coups d'État militaires. Le gouvernement haïtien envisage d'enrôler au maximum 500 soldats, chargés notamment des opérations de reconstruction après des catastrophes naturelles et de la lutte contre la contrebande aux frontières, a déclaré à Reuters le ministre Hervé Denis. Je prévoyais d'en recruter 500 d'abord, mais maintenant, à cause de problèmes de budget, il va falloir réduire le nombre, a déclaré Hervé Denis à Reuters. Le vote du budget, peut-on lire également, est attendu dans les prochains mois. Toujours dans le fil de Reuters, un peu plus bas, cette fois à propos de l'Allemagne, le bloc de Merkel conserve une nette avance dans les sondages. Le bloc chrétien-démocrate de la chancelière Angela Merkel maintient une nette avance sur les sociaux-démocrates du SPD dans les intentions de vote en vue des élections législatives du 24 septembre en Allemagne. Un sondage de l'Institut Forsa, publié mercredi, crédite le bloc CDU-CSU de 39% des intentions de vote, en recul d'un point par rapport à la précédente étude du même institut parue le 28 juin. Le SPD de l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz se maintient à 23%. Traduction, Angela Merkel demeure en tête des sondages en vue de cette élection générale du 24 septembre en Allemagne. Vous trouverez ça dans le fil de Reuters. On va maintenant se déplacer dans les colonnes du journal Le Monde, section Afrique. Concours international de robotique. Washington refuse l'entrée à de jeunes Gambiens. 5 étudiants Gambiens, donc de la Gambie, un État africain, n'ont pas obtenu leur visa d'entrée aux États-Unis en vue de participer au First Global Challenge. Un groupe de 5 élèves Gambiens invités à un concours de robotique aux États-Unis s'est vu refuser les visas d'entrée sur le sol américain, a-t-on appris mardi 4 juillet. Auprès des intéressés. Un groupe de jeunes Afghanes qui devaient participer à cet événement à Washington, le First Global Challenge, s'était auparavant déjà vu refuser l'entrée aux États-Unis. Ce serait vraiment triste si nous ne pouvions pas aller aux États-Unis pour montrer les robots que nous avons nous-mêmes construits, a déclaré à l'AFP Fatouma Cissé, 17 ans. Selon elle, l'équipe a consacré 6 à 7 heures par jour à la construction de ces robots. Alors voilà, une manifestation des décisions prises par l'administration Trump concernant les voyageurs étrangers, principalement les voyageurs en provenance de certains pays à majorité musulmane. Et c'est une illustration à nouveau de la fermeture un peu unilatérale et arbitraire des frontières américaines voulue par le président Trump. Vous trouverez ça dans le journal Le Monde, section Afrique. Visite historique du premier ministre indien en Israël. Vous trouverez ça dans le journal Le Monde, cette fois dans le cahier Proche-Orient. 25 ans après l'établissement de relations diplomatiques entre Tel Aviv et New Delhi, un premier ministre indien s'est rendu en visite en Israël pour la première fois. Mardi 4 juillet, Narendra Modi a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv par son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Jusqu'au 6 juillet, ce dernier l'accompagnera lors de nombreuses étapes du mémorial de Yad Vashem au cimetière militaire de Haïfa où sont enterrés des soldats indiens. Israël note avec satisfaction l'absence de toute étape palestinienne dans le voyage du responsable indien. Le premier ministre indien a prévu de prendre la parole devant plusieurs milliers de ses compatriotes réunis à Tel Aviv. Environ 10 000 Indiens vivent et travaillent en Israël actuellement, précise le journal Le Monde dans ce court article. Restons encore un petit peu, si vous le voulez bien, dans le journal Le Monde, cette fois dans la section Asie-Pacifique. Cambodge, il y a 20 ans, le coup de force de Hun Sen. Le 5 juillet 1997, le prince Norodom Ranariddh est renversé par Hun Sen, avec qui il partageait le pouvoir. La France et plusieurs autres pays ont choisi alors de soutenir ce nouvel homme fort du Cambodge qui règne depuis sans partage sur le pays. Alors voilà, c'est un compte-rendu et un retour sur les événements d'il y a 20 ans, à l'issue desquels Hun Sen a pris le pouvoir au Cambodge. C'était un coup d'État, un coup de force, comme l'indique la manchette du Monde. Vous trouvez ça sur le portail lemonde.fr. Cette fois dans le portail de RFI, RFI.fr, présidentiel au Rwanda, Paul Kagame dénonce des ingérences extérieures. Au Rwanda, alors que la commission électorale doit annoncer ce vendredi la liste définitive des candidats à la présidentielle du 4 août, Paul Kagame a accusé la communauté diplomatique de s'ingérer dans le processus électoral. Le président rwandais a tenu ses propos mardi lors d'une interview télévisée. Autre nouvelle aperçue pour vous dans le portail de RFI et on va clore là-dessus. C'est une nouvelle qui provient des États-Unis. Des compagnies de nouveau autorisées à transporter ordinateurs et tablettes. Les compagnies aériennes Emirates et Turkish Airways ont annoncé ce mercredi 5 juillet la levée immédiate de l'interdiction de transporter des ordinateurs et des tablettes en cabine pour les vols vers les États-Unis. Dimanche, l'administration américaine avait également levé cette interdiction pour la compagnie aérienne Etihad. En mars dernier, rappelle cet article de RFI, l'administration de Donald Trump avait évoqué des risques d'attentats et interdit les équipements électroniques en cabine pour 9 compagnies aériennes au départ de 10 aéroports internationaux dans des pays à majorité musulmane. Dans la foulée, le Royaume-Uni avait lui aussi imposé une interdiction quasi similaire. Voilà, c'est ce qui complète cette revue de presse internationale pour les 5 et 6 juillet. Nous allons dans quelques instants entamer la revue de presse canadienne. À tout de suite. L'info se poursuit dans cette édition des 5 et 6 juillet. Merci d'être à l'écoute, Alexis Gagnon, en votre compagnie. Nous allons maintenant entamer la revue de presse canadienne. On débute tout de suite dans le portail de Radio-Canada, où l'on aperçoit cette nouvelle concernant l'ex-chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, Rona Ambrose, n'est plus députée. La députée albertaine Rona Ambrose, qui avait annoncé au printemps son retrait de la vie politique après avoir assuré la transition à la tête du Parti conservateur du Canada, a officialisé sa démission de son poste. Cette démission entrera en vigueur cette semaine, selon le texte de sa lettre de départ qu'elle a rendue publique. Rona Ambrose représentait la circonscription fédérale de Sturgeon River Parkland en Alberta depuis 2004. Rona Ambrose a également été ministre de l'Environnement, ministre du Travail, ministre de la Santé et des Affaires intergouvernementales dans le cabinet de Stephen Harper. J'espère avoir modestement contribué à ce que les femmes et les filles voient la vie publique comme un moyen de rendre le monde meilleur, a-t-elle déclaré dans sa lettre de démission rendue publique. Rona Ambrose a été chef par intérim du Parti conservateur du Canada après le départ de Stephen Harper jusqu'à l'élection de l'actuel chef. Andrew Scheer rappelle cet article de Radio-Canada. Rona Ambrose a beaucoup soutenu les initiatives visant à aider plus de femmes à se lancer en politique. On va se déplacer maintenant dans le fil de la presse canadienne. Quelques articles, bien sûr, ont été aperçus pour vous dans cette édition des 5 et 6 juillet. L'appui à la taxe sur le carbone de Justin Trudeau diminue au Canada. L'effet Trump semble se faire sentir au Canada, écrit la journaliste Mylène Crête. Moins de Canadiens soutiennent la taxe fédérale sur le carbone selon un sondage de la firme Angus Reid publié cette semaine. Leur appui à cette politique phare du gouvernement Trudeau est passé de 56% en avril 2015 à seulement 44% en juin 2017. Environ un Canadien sur deux croit que le gouvernement fédéral devrait mettre cette politique en veilleuse pour éviter que les entreprises canadiennes ne soient désavantagées par rapport aux entreprises américaines. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est retiré il y a un mois de l'accord de Paris sur le climat qui vise à réduire substantiellement les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques, rappelle cet article de Mylène Crête dans la presse canadienne. L'opposition à la taxe fédérale sur le carbone au Canada est plus vive en Alberta, 68%, et en Saskatchewan, 71%, deux provinces productrices de pétrole, comme on le sait, et au Nouveau-Brunswick, 67%, où la taxe risque de faire grimper le prix de l'électricité. Plus de la moitié des Québécois, 55%, soutiennent cette mesure du gouvernement Trudeau. Il s'agit de la province où la taxe carbone obtient le plus grand appui à l'échelle du Canada. La taxe fédérale sur le carbone dévoilée en mai par la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, ne s'appliquera qu'aux provinces qui n'auront pas élaboré leur propre tarification du carbone d'ici 2018, rappelle cet article de la presse canadienne. Toujours dans le fil de la presse canadienne, mission de paix, les coupes n'affecteront pas le Canada, dit la ministre. La réduction du budget des casques bleus adoptée vendredi dernier est peut-être un casse-tête pour le leadership des Nations Unies, mais cela n'entame en rien la détermination du Canada de se réengager dans les opérations de paix, peut-on lire dans cet article de la presse canadienne. C'est ce qu'a signalé mercredi la ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau en entretien téléphonique depuis Kinshasa en République démocratique du Congo, RDC, où 9 soldats canadiens contribuent actuellement à la mission de paix en cours au pays. La ministre Bibeau a soutenu que le gouvernement canadien n'avait pas encore décidé s'il déploierait des troupes dans cette nation africaine minée par une faiblesse de gouvernance et où la population doit choisir dans les prochains mois un successeur au controversé président Joseph Kabila. La mission de paix congolaise, la MONUSCO, est l'une de celles qui seront les plus durement affectées par le régime minceur imposé au prochain budget des casques bleus la semaine dernière sous la pression des États-Unis de Donald Trump. Les coupes budgétaires de 7% ont été accueillies avec déception par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui espérait au contraire une bonification de l'enveloppe du prochain budget des missions de paix. Dans les pages du journal La Presse à présent, Molson va construire une nouvelle brasserie à Montréal. Si vous êtes Montréalais, vous savez que Mosun occupe tout près du pont Jacques-Cartier une grande part de la rive du Saint-Laurent avec cette brasserie historique. Donc Jean-Philippe Descaries nous apprend que Mosun a de nouveaux plans d'expansion à Montréal. Mosun Coors Brewing Company a finalement décidé de construire une toute nouvelle brasserie dans la grande région de Montréal plutôt que de rénover ses installations bicentenaires de la rue Notre-Dame-Est. Le président de Molson Coors Canada en a fait l'annonce aux employés de la brasserie montréalaise cette semaine. L'entreprise entreprend maintenant l'étude du site qui sera choisi pour l'érection d'un nouveau centre brassicole qui regroupera tant les activités de production que de distribution. L'entreprise prévoit injecter jusqu'à 500 millions de dollars pour la réalisation de ce nouveau projet, peut-on apprendre dans cet article de Jean-Philippe Descaries dans le journal La Presse. On va se tourner maintenant vers le portail indépendant ricochet.media. Une famille mexicaine dénonce la mort d'un militant qui luttait contre une minière canadienne. C'est un article écrit par Émile Duchesne en date du 4 juillet. Les compagnies minières canadiennes sont bien reconnues pour leur non-respect des droits humains dans les pays du tiers-monde, écrit l'auteur de cet article. L'assassinat du Mexicain Mariano Abarca en novembre 2009 est un exemple flagrant de la tragédie extractive en Amérique latine. Abarca militait contre l'implantation d'une mine de barite de la compagnie canadienne Blackfire installée au Chiapas. Le Chiapas, c'est un état du Mexique. À ce jour, personne n'a été inculpé pour ce meurtre et la famille de Mariano souhaite que justice soit faite. Le 28 juin, cette dernière, accompagnée d'associations de la société civile, a lancé une pétition pour accompagner une plainte à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH. Et cet article nous apprend que l'ambassade canadienne au Mexique est mise en cause dans cette affaire. Si vous voulez approfondir, c'est sur le portail de Ricochet, à l'adresse ricochet.media, section francophone de ce portail indépendant. C'est sous la plume d'Émile Duchesne. Je rappelle le titre. Une famille mexicaine dénonce la mort d'un militant qui luttait contre une entreprise minière canadienne. On va faire un petit retour dans le fil de la presse canadienne. La marijuana liée à des expériences psychotiques chez les adolescents. Passer d'une consommation de marijuana occasionnelle à une consommation hebdomadaire ou quotidienne à l'adolescence augmente le risque de 159% de vivre des expériences psychotiques récurrentes, selon une nouvelle étude montréalaise publiée mercredi dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry. L'étude rapporte également des effets de la consommation de marijuana sur le développement cognitif et montre que le lien entre la consommation de marijuana et les expériences psychotiques s'explique en partie par une hausse des symptômes liés à la dépression. Un des objectifs de l'étude était de comprendre le mécanisme par lequel la consommation de marijuana et les expériences psychotiques sont liées. Une des hypothèses avancées par l'équipe du centre de recherche CHU Sainte-Justine est que la consommation de cannabis aurait un effet négatif sur le développement des fonctions cognitives à l'adolescence et que ce déficit cognitif serait directement associé à la manifestation d'expériences psychotiques. L'élu néo-démocrate Roméo Saganache, au cœur d'une controverse actuellement, vous trouverez cette information dans plusieurs médias, notamment dans le portail de Radio-Canada. Roméo Saganache s'excuse d'avoir plagié des portions de sa lettre d'opinion. Le porte-parole néo-démocrate en matière d'affaires autochtones, Roméo Saganache, s'est excusé mardi d'avoir plagié des portions d'autres déclarations dans une récente lettre d'opinion publiée dans les médias concernant le 150e anniversaire du Canada. La lettre en question a été publiée le jour de la fête du Canada dans le Globe and Mail sous le titre en anglais « 150 years of cultural genocide, today, like all days, is an insult ». Et cette lettre a été publiée dans Le Devoir sous le titre « Remuer le fer dans la plaie ». Dans ce texte, Roméo Saganache, un survivant des pensionnats autochtones au Canada, expose les raisons pour lesquelles il n'a pas le cœur à la fête à propos des célébrations entourant le 150e anniversaire du Canada. Par la voie de communiqué, le député fédéral d'Abitibi-Baie James Nunavik Eyou a dit mardi avoir commis une erreur en ne donnant pas le mérite approprié à des personnes ayant exprimé des idées qui se trouvaient dans son texte. On va faire un petit saut du côté du Québec. Si vous connaissez le système d'éducation québécois, vous savez de quoi on parle. Maîtrise du français, les cégepiens toujours plus nombreux à en arracher. C'est sous la plume de la journaliste Louise Leduc dans le journal La Presse. Le nombre de cégepiens inscrits à un cours de mise à niveau en français continue d'augmenter. Au total, 14 988 jeunes inscrits au cégep ont suivi de tels cours pendant l'année 2015-2016. Le calcul qui exclut les non-francophones est basé sur des documents transmis hier par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à la suite d'une demande d'accès à l'information. Alors, on constate évidemment que le niveau de français des élèves qui ont obtenu leur diplôme d'enseignement secondaire et qui arrivent au cégep, ce niveau donc n'est pas suffisant et ces étudiants sont contraints de suivre des cours de rattrapage en français et ils sont de plus en plus nombreux à devoir le faire malheureusement. Vous trouverez cette nouvelle dans le journal La Presse. Maîtrise du français, les cégepiens toujours plus nombreux à en arracher. On va se tourner vers l'hebdomadaire L'Actualité à l'adresse l'actualité.com. Une nouvelle qui revient sur Lac-Mégantic. On sait qu'il y a eu une tragédie ferroviaire en 2013 à Lac-Mégantic. Visiter Lac-Mégantic autrement, c'est le titre de cet article paraissant dans l'hebdomadaire L'Actualité. 4 ans après la catastrophe, le défi de protéger l'économie de la région tout en respectant les résidents éprouvés. 4 ans, écrit-elle, c'est très récent quand on a souffert d'un choc de cette amplitude. Selon le rapport annuel d'évaluation de la Direction de la santé publique de l'Estrie, 7 adultes sur 10 éprouvent toujours des symptômes très nets de stress post-traumatique dans la région de cette municipalité, donc dans la région de Lac-Mégantic. Mais, poursuit la journaliste, le tourisme est vital pour la santé économique de la ville estrienne de quelques 5 800 habitants. Et le tourisme, précise-t-elle, représente environ 1 000 emplois et des retombées de 40 à 50 millions de dollars. Accueillir des touristes, donc, oui, mais le faire dans le respect des survivants de cette tragédie survenue en 2013, une tragédie qui avait causé la mort de près de 50 personnes, rappelons-le. Vous trouverez ça dans le site de L'Actualité, un hebdomadaire que l'on trouve à l'adresse l'actualité.com. Dans le fil de l'Associated Press, l'agence de presse américaine, cette fois la veuve du soldat tué par Omar Khadr veut obtenir l'argent promis par Ottawa. L'avocat de la veuve d'un soldat américain tué en Afghanistan a indiqué mardi avoir fait une demande pour que toute somme versée par le gouvernement canadien à l'ancien détenu de Guantanamo Bay, Omar Khadr, lui soit remise à elle ainsi qu'à un autre soldat blessé. L'avocat Don Winder a fait cette annonce au moment où la décision du gouvernement canadien de présenter ses excuses à Omar Khadr et de lui verser des millions de dollars est accueillie par une pluie de critiques. Une source au courant de cette entente a déclaré sous le couvert de l'anonymat cette semaine qu'Omar Khadr, l'ex-enfant soldat, recevrait 10,5 millions de dollars et des excuses du gouvernement canadien. Canadien, rappelons-le. Donc vous trouverez cette nouvelle concernant la veuve du soldat tué en Afghanistan dans le fil de l'Associated Press en date du 5 juillet. L'épouse de Raif Badawi répond à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Vous trouverez ça dans le journal La Tribune, qui est un journal quotidien de la ville de Sherbrooke au Québec. C'est sous la plume de la journaliste Stéphanie Girard. Donc, on sait que l'épouse de Raif Badawi est établie à Sherbrooke. Raif Badawi, bien sûr, c'est ce prisonnier d'opinion emprisonné actuellement en Arabie Saoudite et soumis à des traitements qui sont contraires aux droits humains, on le sait. Il a été incarcéré pour avoir exprimé des opinions sur Twitter, notamment. Donc, l'épouse de ce prisonnier d'opinion établi à Sherbrooke se désole des propos tenus il y a quelques jours par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Ottawa. « Ce qui me fâche, déclare-t-elle, c'est que ça fait longtemps qu'on entend les mêmes réponses des ministres et du gouvernement saoudien. Il est temps qu'ils changent leur message », a-t-elle déclaré à la journaliste du journal La Tribune. « Depuis 5 ans déjà qu'on attend, dit-elle, c'est trop long, c'est difficile pour mes enfants et moi ». L'épouse de Raif Badawi souhaite tout de même que le gouvernement canadien continue de s'impliquer et fonde beaucoup d'espoir sur l'influence du premier ministre Justin Trudeau. Et on va clore cette revue de presse canadienne avec un article qui paraît dans le portail indépendant ricochet.media où nous étions justement il y a quelques minutes à propos de cette entreprise minière canadienne. Cette fois, c'est du côté anglophone et ça concerne le départ à la retraite de Peter Mansbridge, le chef d'antenne de CBC. Et si vous voulez, c'est une note discordante dans le concert d'éloges qui a retenti suite à l'annonce du départ de Peter Mansbridge à la barre du National, qui est le bulletin d'information traditionnel de la CBC. Et cet article paraissant dans le portail ricochet.media s'intitule tout simplement « Peter Mansbridge, a long overdue farewell ». Donc c'est une critique du réseau CBC et du système qui avait été implanté, si vous voulez, par le chef d'antenne Peter Mansbridge pendant plus de 3 décennies. Et c'est sur cette actualité qu'on va refermer la revue de presse canadienne pour cette édition des 5 et 6 juillet. Restez à l'écoute, dans un instant, on va aborder la rubrique francophonie. À tout de suite! Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief. Nous allons maintenant passer aux nouvelles francophones. C'est la rubrique francophonie pour les 5 et 6 juillet. On va tout de suite débuter dans les pages du journal Le Droit, qui est un des journaux phares de la francophonie hors Québec au Canada. Le Droit, qui est un journal établi à Ottawa de longue date. Et Le Droit fait paraître une lettre ouverte fort intéressante aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est signé par un Acadien d'origine, Ricky G. Richard. Il est né à Toronto de parents acadiens. Il a grandi au Nouveau-Brunswick et il est maintenant établi au Québec après avoir longtemps travaillé à Ottawa. Alors, il connaît bien la francophonie hors Québec, inutile de le préciser. Et son texte s'intitule « La constellation francophonie » avec un F majuscule. Comment pouvons-nous décrire toute la complexité et la richesse de la grande solidarité francophone canadienne, demande-t-il en guise d'introduction. Les géographes ont été les premiers à donner des représentations de la francophonie en forme et en image. Il y a eu la ceinture bilingue ou la bilingual belt, si vous préférez, une ceinture qui oubliait toutefois bien des francophones dans l'Ouest canadien, précise-t-il. Ensuite, Ferdinand Lauder et Eric Waddell ont proposé l'archipel de petites îles francophones entourées d'anglophones. À mon avis, écrit-il, le centre de la francophonie des Amériques a trouvé l'image emblématique de la francophonie canadienne contemporaine, la constellation francophone. La francophonie canadienne, écrit-il, est à l'image d'une constellation. Visualisez-le plutôt, des villes étoiles plus brillantes les unes que les autres, reliées entre elles par des faisceaux lumineux. Cette image d'une constellation nous fait prendre conscience que les grandes concentrations de francophones sont reliées entre elles par des corridors plus ou moins densément peuplés de francophones, francophiles ou bilingues qui participent tous à leur façon à son essor. Nul besoin d'avoir un territoire contigu pour se donner un même projet d'épanouissement. L'image de la constellation est opportune car la francophonie est visible, brillante et vibrante, même si elle est aussi, en quelque sorte, insaisissable. Certains la regardent à l'œil nu et d'autres utilisent leur télescope pour avoir une image plus nette. Cette constellation renvoie à une image non territoriale, abstraite, mais bien vivante, précise-t-il. Les médias sociaux et la technologie mettent les francophones en relation en dépit des distances. À l'ère numérique, l'enjeu de la vitalité francophone ne dépend pas uniquement de la concentration géographique ou de la densité. Le défi actuel, poursuit-il, est celui de la capacité plus ou moins développée de la francophonie canadienne de créer des espaces réels ou virtuels véritablement à son image. La francophonie est à la base une grande solidarité, parfois méconnue ou mal représentée. Plus d'un million de francophones éparpillés par-delà le territoire canadien y vivent. On les désigne à tort comme des hors-Québec ou des minoritaires. Sachez qu'il y a davantage de ces « minoritaires » en guillemets au Canada qu'il y a de Québécois à Québec. Cette grande francophonie canadienne est multiple, plurielle, diversifiée, multiethnique et multiconfessionnelle. Il y a des immigrants hispanophones, des Arabes, des Africains, des parlants français européens de Belgique ou de France et bien sûr des Québécois. Il y a des urbains et des ruraux, des femmes et des hommes d'action. Alors voilà, cette lettre d'amour à la francophonie canadienne hors Québec est publiée par le journal Le Droit. C'est assez euphorique. C'est une belle prise de parole de la part de l'auteur Ricky G. Richard, un auteur d'origine acadienne qui a vécu un peu partout dans l'Est du Canada. Ça s'intitule « La constellation francophonie ». Vous trouverez ça sur le portail lapresse.ca. C'est dans la section du journal Le Droit. Et avant de refermer cette chronique francophone du jour, on va signaler cette nouvelle paraissant dans le fil de la presse canadienne concernant la plus haute cour de justice au Canada. Le prochain juge en chef de la Cour suprême doit venir du Québec, dit le barreau de Montréal. Le barreau de Montréal souhaite que la tradition soit respectée à la Cour suprême du Canada et que par conséquent, le prochain juge en chef soit choisi parmi les juges du Québec de formation en droit civil et de langue française. Le bâtonnier Brian Mitchell a fait parvenir une lettre à cet égard au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould. Une résolution pour l'envoi de cette lettre avait préalablement été adoptée à l'unanimité par les membres du barreau de Montréal. Selon la tradition, rappelle cet article de la presse canadienne, le poste de juge en chef doit être confié en alternance, d'une part, entre les juges ayant une formation de droit civil pratiquée au Québec et de common law, et d'autre part, entre les juges de langue française et anglaise. L'invitation que nous avons lancée au premier ministre, c'est qu'on est un pays et on pense que c'est important d'avoir une alternance entre les deux grandes traditions. Beverly McLaughlin a été juge en chef extraordinaire pendant environ 15 ans, mais dans ses considérations comme premier ministre, nous avons encouragé Justin Trudeau à chercher un juge en chef de la province du Québec, a expliqué Brian Mitchell à la presse canadienne. Alors voilà, si vous vous intéressez à la Cour suprême du Canada, vous pourrez consulter cette nouvelle paraissant dans le fil de la presse canadienne. Le prochain juge en chef de la Cour suprême doit venir du Québec et parler français selon le barreau de Montréal. Et voilà, on va clore cette rubrique francophone pour les 5 et 6 juillet. On fait une petite pause musicale. Au retour, on s'intéresse aux nouvelles de Colombie-Britannique. Restez à l'écoute. Nous écoutions à l'instant une pièce du jazzman Neil Cowley intitulée The City and the Stars. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Voici immédiatement votre revue de presse provinciale. Et nous allons parcourir le portail de Radio-Canada. Il y a quelques nouvelles aperçues pour vous dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. On débute avec cette nouvelle intitulée « Naloxone, le vaporisateur nasal demeurera disponible au Canada ». Les organisations qui travaillent auprès des toxicomanes se réjouissent de voir que la naloxone sous forme de vaporisateur nasal pourra continuer à être distribuée au Canada. La version canadienne homologuée du Narcan peut maintenant être vendu au pays. C'est ce que rapporte la journaliste Fanny Bussière-McNichol dans cet article de Radio-Canada. Cet antidote, écrit-elle, qui permet de contrer les surdoses d'opioïdes, était disponible au Canada depuis juillet dernier, en 2016, en vertu d'une exemption accordée par la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott. Quelques 800 trousses de ce vaporisateur nasal de naloxone ont été distribuées depuis janvier par le centre de santé communautaire South River à Toronto. Il s'agit, selon Zoé Dodd, une employée de ce centre, d'un outil très utile qui peut sauver des vies. La naloxone intranasale présente d'ailleurs plusieurs avantages si on la compare à la naloxone injectable, selon Sean Hopkins, qui gère le programme The Works au Bureau de santé publique de Toronto. Cette naloxone intranasale est plus facile à utiliser lors d'une surdose d'opioïdes et tout aussi efficace. Vous le savez, bien sûr, notre province, la Colombie-Britannique est en état d'urgence sanitaire depuis plus d'un an en raison des nombreuses surdoses d'opioïdes et le nombre a connu encore un pic ce printemps. Je crois qu'on a atteint 134 décès dans le mois d'avril. On est à plus de 600 décès depuis le début de l'année 2017. Un triste record à nouveau qui sera sans doute battu en fin d'année 2017. Voilà pourquoi cette nouvelle se retrouve sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Je répète le titre, Naloxone, le vaporisateur nasal, demeurera disponible au Canada. Toujours dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada, vague de chaleur et interdiction de feu de camp à venir. Le sud de la Colombie-Britannique va connaître des températures frôlant les 40 degrés Celsius dans les prochains jours, selon les prévisions d'Environnement Canada, qui a publié un bulletin météorologique spécial. Les températures diurnes maximales atteindront entre 34 et 39 degrés de jeudi jusqu'à dimanche, peut-on apprendre de la part de l'agence gouvernementale Environnement Canada. De plus, les conditions demeureront très chaudes au cours de la nuit. Et toujours à propos de feux de forêt, toujours dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada, une vingtaine de familles évacuées dans l'Okanagan. Au moins 18 résidences ont été évacuées mardi en raison d'un feu de forêt à Caledon, dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Le district régional de l'Okanagan, Similkanine, a également placé 165 autres résidences en alerte d'évacuation. Les autorités ont confirmé que deux structures, dont une maison, ont été détruites ou endommagées par les flammes, tandis que 6 autres ont pu être sauvées de justesse par les pompiers. Et le portail britanno-colombien de Radio-Canada nous apprend également que le conseiller municipal de Vancouver, Jeff Meggs, sera chef de cabinet du NPD provincial. Le conseiller municipal de Vancouver, Jeff Meggs, a démissionné de son poste pour rejoindre le gouvernement du NPD de John Horgan à titre de chef de cabinet. Jeff Meggs a été élu 3 fois au conseil municipal de Vancouver, signale cet article de Radio. En Colombie-Britannique, un gouvernement John Horgan, avec l'aide du parti vert d'Andrew Weaver, bien sûr. Je vous recommande la section consacrée à ces élections provinciales qui ont eu lieu, rappelons-le, il y a près de 2 mois en Colombie-Britannique, le 9 mai. Il y a toujours dans le site du Times Colonist une section sur l'élection 2017, un onglet qui est resté là beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu à l'origine, parions-le. Alors, le Times Colonist qui continue de maintenir une section consacrée à cette élection provinciale 2017 du 9 mai dernier. Et c'est là qu'on apprend les dernières nouvelles sur la transition que promet le NPD. Donc, la formation d'un cabinet, par exemple. John Horgan qui prépare cette formation de cabinet. Je vous avais dit dans l'édition hier qu'on connaîtrait sans doute la composition du cabinet des ministres de John Horgan. J'avais tout faux. C'était prématuré. Ce processus se poursuit actuellement. Il y a différentes nominations préalables qui ont eu lieu. Alors, si vous voulez les dernières nouvelles, je le disais, vous aurez la section Election sur le portail du Times Colonist à l'adresse timescolonist.com. Et pour terminer cette revue de presse provinciale, je vous recommande la lecture d'un article paraissant dans le portail indépendant de Taï, notre portail indépendant ici sur l'île de Vancouver, à l'adresse de taï.ca. C'est un article signé par le chroniqueur Andrew Nikiforuk concernant l'exploitation gazière et pétrolière dans la province de Colombie-Britannique. Je vous donne le titre en anglais d'abord. One third of BC's oil and gas wells leaking significant levels of methane, study finds. Une étude a démontré que les puits de pétrole et de gaz dans la province de Colombie-Britannique laissaient fuir d'importants niveaux de méthane. C'est ce que nous apprend Andrew Nikiforuk dans cet article paraissant sur le portail de taï.ca. Et nous apprenons dans cet article que c'est la fondation David Suzuki qui tire la sonnette d'alarme dans ce dossier. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition du débrief. On referme la revue de presse provinciale. On va se pencher rapidement sur la météo des prochains jours. Une excellente météo jusqu'à présent, en ce début de semaine, au retour de la fête du Canada. On va regarder ce qui se passe du côté de Victoria, dans la grande région de Victoria, pour les prochains jours. Et Environnement Canada nous indique, comme c'était suggéré un petit peu plus tôt en raison de la vague de chaleur, que le soleil va demeurer très présent dans notre région au cours des prochains jours. Si vous nous écoutez en fin de journée le 5 juillet, vous savez, on a eu beaucoup de soleil aujourd'hui, aucun nuage, un maximum de 24 degrés à l'aéroport de Victoria. Et pour le jeudi 6 juillet, le mercure atteindra 26 degrés, un soleil qui va vraiment dominer sans partage dans le ciel de Victoria. Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9, le scénario se reproduit. Le mercure oscillera entre 23 et 24 degrés et ça pourrait même se poursuivre les lundis 10 et mardi 11 juillet. Donc, nous sommes dans une longue séquence de beau temps ici dans la grande région de Victoria et on peut le dire à l'échelle de la province, ce qui provoque bien sûr des risques d'incendie dans le sud de la province. On y reviendra sans doute avant la fin de la semaine. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition du débrief. Merci de l'avoir suivi. Merci de syntoniser votre fréquence francophone communautaire locale. Le débrief va vous revenir demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Allô, c'est Ruben. Vous écoutez CILSFM, la radio communautaire de la francophone à Victoria.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILSFM.
Long diable et foxtrot du règne animal.